Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
Au sommaire du pédalo aujourd'hui, quel héritage vont laisser les Jeux paralympiques sur les infrastructures sportives ou pas dans le Maine-et-Loire ? Est-ce que les Jeux ont servi de tremplin à ces problématiques d'accessibilité ? Eh bien, on en parle avec l'association APF France Handicap et leur délégation du Maine-et-Loire. On retrouve également la chronique de Thomas sur Donald Trump. Thomas qui traitera pour nous la campagne des élections présidentielles américaines tout au long de la saison, au moins jusqu'au mois de février, pour donner des suites à ces élections qui auront lieu au mois de novembre. Alors vous savez tout, ajustez votre gilet de sauvetage. C'est parti, le pédalo lève les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Et on commence cette émission avec la chronique de Thomas. Salut Thomas.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Donc tu vas nous parler des élections américaines et cette semaine tu nous parles précisément de l'histoire des idées politiques de Donald Trump. Donc.
Oui, tout à fait Hugo. Donald John Trump, de son nom complet, c'est la personnalité clivante de ces élections américaines. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que depuis très longtemps, Donald Trump est intéressé par la politique. À ses débuts, bien évidemment, celui-ci ne prend pas parti pour un camp. Mais tout va changer en 1988 lors d'une émission de télévision avec l'animatrice phare de l'époque, Oprah Winfrey. Donald Trump va pour la première fois se libérer sur ses idées politiques. Il prône lors de cette interview une vision d'un libéralisme et d'un protectionnisme américain fort.
Et des idées qui appartiennent donc plutôt au camp républicain.
Tout à fait. Mais à peine un an plus tard, en 1989, celui-ci fait machine arrière. Il annonce se rallier au parti réformiste et se présente même en 1999 aux élections présidentielles de 2000, sous l'égide du parti réformiste.
Un retournement de veste complet puisque le parti réformiste rejoint plutôt des idéaux de gauche, plus proche du parti démocrate. Mais est-ce que ça n'a pas un peu à voir avec sa personnalité hein, parce qu'on le sait, Donald Trump est connu et même reconnu pour avoir un fort caractère et une forte trempe.
Effectivement. Alors, bien sûr, plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour comprendre ce retournement de veste aussi brutal et rapide. Donald est très impulsif, il aime se faire entendre et surtout, il n'apprécie guère les nouveaux candidats républicains de cette époque. Bon, je vous rassure, si vous n'avez jamais entendu parler de cette campagne, c'est que très rapidement, Donald Trump s'est ravisé et a laissé sa place.
C'est un échec à la présidentielle, mais pour autant, ça ne reste pas moins très intéressant.
Nous sommes dans les années 2000 et Donald Trump adhère alors à un nouveau parti, le Parti démocrate. C'est à ce moment-là qu'on a pu assister à des scènes aujourd'hui irréalistes entre Donald Trump, Hillary Clinton et même Bill Clinton qui dînent ensemble. Une période assez calme où Donald Trump se concentre essentiellement sur ses autres activités. Ce n'est qu'en 2009 qu'il revient en grande pompe pour critiquer vivement le président Obama. Il quitte alors définitivement le camp démocrate pour revenir du côté républicain. Cette fracture avec Obama et par extension le camp démocrate va marquer véritablement un tournant dans la carrière politique de Donald Trump. C'est de là que va naître cette défiance vis-à-vis du Parti démocrate et de tous les membres qu'il compose. Mais en 2009, pour Donald Trump, c'est trop tôt. À ce moment-là, tout le monde sait qu'il veut entrer en politique, mais personne n'a réellement envie. Et par-dessus tout, la concurrence est trop rude. Barack Obama est extrêmement populaire, et même les meilleurs candidats républicains peinent à le mettre en difficulté. Alors Donald attend. Il attend quoi ? Eh bien, un moment un peu plus propice. Et en 2016, les étoiles s'alignent. La suite est assez connue, il réussit l'exploit dans un premier temps d'être élu candidat républicain puis président des États-Unis, un petit peu à la surprise générale. En 2020, retournement complet, en plein Covid, il enchaîne les mauvaises décisions et les bad buzz et n'arrive pas à se faire réélire.
Et c'est un peu ici qu'on peut cerner toute la personnalité de Donald Trump pour ses élections de 2024. Un homme impulsif, sûr de lui, qui a une image forte et qui n'a pas peur des bad buzz. un candidat qui a de l'expérience maintenant avec son mandat de 2016 à 2020. Mais ironiquement, à l'image des critiques qu'il avançait sur Joe Biden, un homme aujourd'hui vieux, hein, puisqu'il a 78 ans, Thomas.
Tout à fait. Reste à voir si avec ce caractère et cette personnalité, il arrivera à plaire ou à faire peur à l'électorat américain. Pour lui, tout l'enjeu est de convaincre à partir de maintenant face à Kamala Harris.
Eh bien, merci beaucoup Thomas pour cette chronique très instructive. Hein. On rappelle que Donald Trump, hein, dans l'actu, hein, on a un peu parlé de lui, hein, récemment, puisqu'il s'est il a de nouveau essuyé des tirs. Enfin, en tout cas, des tirs ont été entendus à proximité de l'endroit où il faisait une petite partie de golf. Donc, évidemment, toute cette campagne américaine est émaillée de violence et la démocratie a été mise à mal par lui-même. Et maintenant, c'est lui qui en fait les frais. Merci beaucoup Thomas et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique sur les élections aux États-Unis. Oui. Avec leur morceau Néné sur les ondes de Radio Campus Angers, vous êtes bien à bord du pédalo. C'était génial, on s'est bien régalé avec ce son-là. En tout cas, moi j'ai bien dansé dans le studio.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
On va parler Jeux paralympiques, handicap et accessibilité dans le Maine-et-Loire. Il existe une multitude de handicaps, moteurs, physiques, cognitifs, etc. Les modalités de prise en charge sont donc aussi nombreuses que riches. Alors, est-ce que les pouvoirs publics se servent de la vague des Jeux paralympiques pour permettre une meilleure prise en charge? Les Jeux paralympiques ont-ils donné un élan face à la prise en charge des handicaps dans le Maine-et-Loire? Et pour répondre à toutes ces questions, Marine Delafoy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes salariée chargée développement et de communication au sein de la délégation du Maine-et-Loire d'APF France Handicap. Avec nous également dans le studio, Thomas Bietri, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes élu membre du conseil d'administration de la délégation du Maine-et-Loire d'APF France Handicap. Et on va revenir ensemble d'abord sur ces Jeux paralympiques. Est-ce que vous avez regardé les Jeux olympiques d'abord?
Oui.
Ouais.
Moi, j'y suis allé.
Ah, vous y êtes allé? Je suppose que vous avez passé du bon temps devant les Jeux Olympiques?
Oui.
Ouais. Et les Jeux Paralympiques, est-ce que vous les avez regardés?
J'y suis allé aussi.
Les Jeux Paralympiques, vous y êtes allé aussi. Qu'est-ce que vous avez préféré regarder?
Les Jeux Paras.
Pourquoi?
Parce que ça m'a rappelé des souvenirs par rapport au handicap.
C'est-à-dire, parce que en fait, il y a une identification qui est forte.
Bah, voir des handicapés du monde entier, c'est fort, c'est une image forte.
Surtout dans les rues de la capitale. Ouais. Que vous connaissez probablement.
Et là, c'est vrai qu'il y avait. J'étais étonné du monde, qu'il y avait les spectateurs, tout ça, j'étais étonné. Je m'attendais pas à voir autant de monde.
Pour les paras?
Ouais, pour les paras.
Et vous, Marine?
Eh ben moi, du coup, j'ai regardé autant les Jeux Paralympiques que les Jeux Olympiques, surtout en télévisuel, parce que j'ai pas pu m'y déplacer. Mais par contre, effectivement, en association, nous avons organisé une sortie où nous avons plusieurs adhérents et bénévoles qui sont partis sur Paris assister à du goalball le premier vendredi de la semaine des Paralympiques. Et ça a été une sortie qui a été très appréciée par tous. Thomas y est retourné par la suite de son côté. Mais c'est vrai que l'impact des Paralympiques était quand même plutôt agréable à voir. Voir que il y avait une mobilisation pour les athlètes en eux-mêmes et pas juste pour des personnes en situation de handicap, on les considérait comme des athlètes. Et il y avait une grande visibilité qui était donnée. Quand on voit France Télévisions qui a diffusé énormément, c'était quand même hyper enrichissant et intéressant de pouvoir découvrir des sports qu'on ne voit pas tous les jours à la télé. Parce qu'il y a certains sports, nous on les connaît parce que on a fait certaines sorties diverses et variées, mais le grand public ne le connaît pas. Et de découvrir que c'était médiatisé et mis en avant, c'était vraiment intéressant. Et même nous, personnes en situation de handicap, très honnêtement, moi il y a des sports que je ne connaissais pas, que j'ai pu un petit peu regarder à la télévision, et jamais j'aurais pensé à me renseigner dessus parce que j'en avais jamais entendu parler. Donc c'était très intéressant.
Il y a beaucoup d'athlètes, notamment un athlète para qui s'est élevé, parce que Teddy Riner a comparé les athlètes paralympiques à des super-héros, des super-athlètes un petit peu. Et il y a pas mal de voix qui se sont élevées contre cette comparaison avec les super-héros. En fait, pour les para-athlètes, les athlètes sont des athlètes comme les autres. Il n'y a pas de distinction entre les athlètes et les para-athlètes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous considérez, vous, que les para-athlètes sont un peu des super-héros ou pas?
Dire qu'ils sont des super-héros, je ne sais pas, c'est des athlètes en eux-mêmes qui effectivement se battent au quotidien pour pouvoir réaliser du sport, pour avoir accès à des infrastructures, pour continuer leur vie malgré tout, parce que au-delà du sport, il y a la vie à côté. Donc est-ce que c'est des super-héros plus que les autres? Je ne sais pas. En tout cas, c'est des gens qui ont autant de mérite que les autres athlètes, en tout cas.
Thomas?
Moi, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on doit... C'est pas parce qu'on est handicapé qu'on doit être vu d'une autre manière.
Ouais, c'est vrai que nous, en association, on milite beaucoup sur l'inclusiversalité, donc rendre la société la plus inclusive possible. Et dans cet objectif-là, on essaye de dire que les personnes en situation de handicap sont des personnes comme les autres. Et donc, être le plus considéré comme une personne et pas pour un handicap, pour une différence.
Thomas, vous êtes sportif et vous faites du sport adapté, du football en l'occurrence. Est-ce que vous avez senti dans le club où vous êtes une émulation, une sorte de ferveur qui s'est saisie du club des joueurs à l'occasion de ces Jeux Paralympiques?
Alors, il faut savoir que moi, je fais du foot en fauteuil et le foot fauteuil n'est pas aux Jeux Paralympiques. Tout simplement parce que c'est un sport à moteur. Et du coup, on en a parlé entre nous, mais ça nous a rien fait de plus que ça, quoi. Ça...
Est-ce que vous avez senti qu'il y a peut-être une, plus de licenciés ou des personnes qui sont venues vous voir, ou est-ce que l'impact a été minime sur votre club ?
Oh, c'est minime, c'est minime. Dans notre club, il n'y a pas beaucoup de supporters qui viennent nous voir ou des personnes qui viennent nous voir.
Est-ce que vous pourrez peut-être nous expliquer les différences entre le parasport et le sport adapté ?
Pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de différences. En fait, faut savoir que tout sport n'est pas aux Jeux Paralympiques. Notamment le foot fauteuil n'est pas aux Jeux Paralympiques. Tout simplement parce que c'est un sport à moteur.
Et les sports à moteur sont interdits ? Enfin, il n'y a pas de sport à moteur aux Jeux Paras ?
Oui, pour l'instant. Il faut savoir que le foot-fauteuil va arriver en 2028 à l'essai et en 2032, il sera aux Jeux Paralympiques.
Est-ce que c'est facile de faire du sport adapté en Maine-et-Loire ?
En fait, dans le Maine-et-Loire, pour mon sport à moi, il y a un club, mais ils font du loisir. Et du coup, moi, j'aime pas le loisir, donc tous les lundis, je vais à Nantes m'entraîner et du coup, faire de la compétition les week-ends.
Ah oui, vous êtes obligé d'aller jusqu'à Nantes pour faire...
Ouais, et on se déplace sur toute la France.
Marine, est-ce que vous avez aussi connaissance un peu de ces facilités ou non de faire du sport adapté dans le Maine-et-Loire ? Est-ce que c'est effectivement difficile de trouver des compétitions de sport adapté dans le Maine-et-Loire ?
Alors, déjà, moi, je vais apporter une petite nuance. Je fais une différence entre le sport qu'on voit aux Jeux Olympiques ou autres et le sport adapté. Le sport adapté peut être pratiqué par une personne en situation de handicap ou non. Ça peut être une personne vieillissante. Ça peut être une personne atteinte d'une maladie diverse et variée, ou une personne qui a des difficultés physiques X ou Y, qui se casse le poignet ou autre, peut pratiquer du sport adapté. C'est-à-dire qu'il existe des salles de sport adaptées. Sur Angers, nous en avons 3, à ma connaissance. Peut-être un peu plus, hein, je ne sais pas vous dire. Mais le sport adapté, c'est un sport qu'on adapte aux capacités de la personne. Un sport, handisport on va dire, c'est du sport notamment par exemple la natation, le basket fauteuil, le foot fauteuil comme Thomas vient de le dire, qui peut être pratiqué autant en loisir qu'en compétition, effectivement. Alors moi je me suis renseignée hein, tout simplement cette année en me disant peut-être parce que je nage beaucoup, j'aurais pu être intéressée éventuellement d'aller faire de la natation. Et c'est vrai que quand on regarde les horaires d'entraînement, c'est des horaires qui quand on travaille à côté, c'est pas compatible. Et c'est dommage parce que ça aurait peut-être permis d'ouvrir une porte et de se dire compte tenu des horaires moi ça va pas être faisable de le rentrer dans mon quotidien alors que j'aurais pu y être intéressée, mais c'est pas grave, je me dis que je vais continuer de mon côté parce qu'on peut aller à la piscine par nous-mêmes. Sur Angers, il y a des infrastructures qui ont le matériel adapté pour nous permettre de descendre dans la piscine et aller nager comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a une nuance à faire entre le handisport et le sport adapté, qui s'appelle plutôt de l'activité physique adaptée, APA, où il y a des personnes qui sont formées et tout le public en général peut y accéder, alors que le handisport est peut-être un peu plus fermé.
Est-ce que vous avez senti que les pouvoirs publics se sont servis des jeux pour améliorer l'accessibilité des infrastructures sportives sur le territoire ? Là, vous dites que les horaires les horaires de piscine pour les personnes en situation de handicap, eux, sont sur des créneaux absolument impossibles. Est-ce que c'est pareil partout ? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une politique qui a été menée par les pouvoirs publics pour rendre plus accessible le sport aux personnes en situation de handicap ?
Alors, très honnêtement, je ne vais pas savoir vous dire dans le détail. Ça serait bien de pouvoir peut-être échanger avec les clubs et voir est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver des horaires dans la journée, des horaires... Parce que je vais vous prendre un exemple sur la natation en e-sport. On était sur des horaires de fin de journée. Donc, après potentiellement une journée de travail, où on peut avoir, quand on est en situation de handicap, certains ont des soins, ont des besoins à domicile, ont des passages pour l'aide au repas et autres. Il pourrait être intéressant d'échanger avec les clubs. Au jour d'aujourd'hui, moi, j'en ai pas connaissance, de savoir comment ça a évolué pour cette rentrée, la 2024. Mais peut-être que dans les semaines à venir, on va voir des choses évoluer.
Est-ce que peut-être on peut parler de simplement ce que revêt hein, ce terme accessibilité? Il y a évidemment les personnes à mobilité réduite, bien sûr, mais il y a aussi des endroits, des festivals, des propositions qui sont accessibles pour les personnes à mobilité réduite, mais il y a aussi des choses qui sont mises en place, hein, des boucles magnétiques, des gilets vibrants, etc. etc. Aussi pas mal de choses qui sont adaptées pour les personnes âgées. Est-ce qu'on peut juste questionner un peu ce terme accessibilité?
Alors, tu réponds? Non, attends, je vais...
Comme vous voulez,
alors,
Marine.
Alors, le terme d'accessibilité, l'objectif, c'est de rendre accessible à tout le monde, donc le plus adapté possible à tous, un lieu, que ce soit un commerce, l'entrée d'un commerce, que ce soit aller à un spectacle et pouvoir vivre le spectacle comme tout le monde. Il faut savoir que Angers a été l'année dernière, je crois, sur le concert de soprano, l'un des premiers à adapter le spectacle pour les personnes qui étaient malentendantes, il me semble. Si
c'était le premier.
Ouais, c'est ça. Le premier en France. Donc, on voit quand même des choses qui évoluent. Et de se dire que ben, l'accessibilité, c'est autant pour les personnes en situation de handicap que ben, nous, on va au-delà de ça. De se dire, ben, pour les personnes qui vieillissent petit à petit, les personnes qui ont des poussettes, pas galérer à monter un trottoir, accéder à un lieu, c'est tout ça l'accessibilité. Et c'est aussi l'accessibilité au global, l'accessibilité financière, l'accessibilité vraiment à large spectre. Permettre l'accès à la culture pour tous. Alors, je sais que sur Angers, il y a des choses qui commencent à se développer pour l'accès à la culture pour tous. Sur les accroche-cœurs, je sais qu'il y a un plan d'accessibilité qui est proposé pour une accessibilité simplifiée, avec des logos qui sont spécifiés pour montrer où il est le plus facile de pouvoir observer les spectacles. Donc ça, on voit que ça évolue petit à petit, mais il y a encore des choses à faire, ça c'est sûr.
Thomas ?
Il y a encore pas mal de boulot. Il faut savoir que la ville la plus accessible en France, c'est Grenoble. Grenoble et Angers, on doit être 17e ou 18e ville accessible en France.
Pour une ville qui aime bien les classements, c'est vrai que 17-18e, c'est pas fameux.
Ouais. La ville la plus accessible d'ici, c'est Nantes. Nantes, ils sont au 4e ou 5e, je sais plus.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour rendre Angers plus accessible?
Là, tout de suite, je vois pas, mais il y a encore pas mal de boulot avec la ville.
On va prendre un exemple tout simple, c'est aller manger au restaurant. Sur Angers, vous prenez le centre-ville, vous avez beaucoup de commerces, alors il y en a certains qui ont des rampes, mais vous en avez certains où vous avez une marche. Je me rappelle d'un soir, il y a quelques semaines, où j'ai voulu aller boire un verre avec des amis. Nous avons fait plusieurs bars avant de trouver un bar qui était accessible et dans lequel je pouvais rentrer. Donc on voit que ça avance, il y a encore des choses à faire. Malheureusement, on sait qu'Angers est une ville aussi où le patrimoine a du cachet et il y a les bâtiments de France et tout ça, donc il y a des choses à prendre en compte. Mais faire des choses qui sont démontables sont peut-être envisageables et que ça bouge peut-être plus rapidement. Il y a aussi, on a eu certains problèmes sur les transports en commun, alors le tramway c'est mieux. Mais sur des arrêts qui n'étaient pas forcément accessibles, sur les bus et autres. Ou de nous dire, l'arrêt où tu veux descendre, il n'est pas accessible, il faut aller deux ou trois stations plus loin. Non, pourquoi on ne peut pas faire comme tout le monde? Ça, c'est des choses qui doivent encore évoluer.
Les para-athlètes ont été acclamés hein, pendant ces Jeux. On a vraiment en souvenir des performances sportives absolument folles. Aurélie Aubert, Charles Nox, j'en passe et des meilleurs. Pour autant, alors qu'on les a acclamés comme des véritables stars et que les Français, les Françaises ont été au rendez-vous de ces Jeux paralympiques, j'ai l'impression qu'il manque d'un élan général autour de l'accessibilité et des politiques mises en place pour les personnes en situation de handicap.
Effectivement, on voit qu'il y a certaines choses qui ont évolué. On voit les gens qui, par exemple, des fois, osent peut-être un peu plus venir vers nous, poser des questions, nous demander pourquoi on est en situation de handicap, comment ils peuvent nous aider, des choses comme ça. Mais il y a aussi des gens qui, et ça ne m'est arrivé encore hier, d'un seul coup, tu entends derrière toi, alors que tu attends l'ascenseur, « Oh, ça y est, les boulets sont sortis aujourd'hui. » Pardon. Alors ça n'a pas lieu d'être.
Et puis c'est des propos qui sont punis par la loi.
Oui, c'est ça. Mais ça peut encore arriver. Et malheureusement, oui, il y a eu une mentalité où ben, tout le monde s'est engagé derrière les athlètes. Il y a plein de choses qui ont été faites. Et je pense à Aurélie Aubert, la boccia. Nous, c'est un sport qu'on met beaucoup en avant au sein d'APF France Handicap. Parce qu'on a tous, au sein des délégations, un jeu de boccia pour jouer avec nos adhérents. C'était génial de voir Aurélie Aubert mise en avant comme ça et l'avoir gagné sa médaille d'or. Et c'était fabuleux. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il ne faut pas que le soufflet retombe, si on peut dire ça comme ça. Il y a eu un engouement. Il y a eu une belle évolution sociétale, il serait bien qu'elle reste.
Thomas ?
Et puis il faut savoir que la boccia, tout le monde peut participer. Parce que ceux qui ne peuvent pas jeter avec leurs mains, il y a des rampes, il y a plein de choses. Il y a plein de choses pour jouer à la boccia, il y a plusieurs façons de jouer.
Ouais, et c'est vrai que en fait de voir des personnes comme Aurélie Aubert autant mises en avant, ça, en fait, on voyait plus du tout son fauteuil.
Ah ben.
On voyait Aurélie Aubert qui jouait à la boccia.
C'est ça, on la voyait en tant que personne, et c'est ça qui est génial, c'est que je pense que les Paralympiques ont quand même permis peut-être un petit peu cette évolution des mentalités, de se dire au-delà d'un handicap, c'est une personne. Alors ça, j'aimerais beaucoup, vraiment sincèrement, que ça puisse rester, qu'on soit considérés comme des personnes. Et pas pour un handicap, que ça pose problème. On se dise, ok, ensemble, on trouve des solutions. Ça sera peut-être pas parfait, mais on va essayer.
Il y a des choses qui ont été mises en place quand même par les pouvoirs publics, notamment, je pense à cette prestation de compensation du handicap qui a été mise en place par le département. Grosso modo, c'est une prise en charge d'une partie des dépenses liées à la perte d'autonomie, hein, par exemple, voilà, l'adaptation du logement, des hébergements temporaires, de l'aide aussi pour faire ses courses, je crois. En 2021, c'est les derniers chiffres que j'ai pu trouver, il y avait 5161 adultes qui en bénéficiaient dans le Maine-et-Loire. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'est une aide qui est accessible effectivement, si je puis dire, à toutes et à tous ? Est-ce qu'il faut un dossier solide pour pouvoir bénéficier de ces aides-là ? Enfin, je vois un peu sourire, comme si ça faisait un peu marrer d'avance ma question, mais quand on parle de cette prestation de compensation du handicap ?
Alors, il faut savoir que pour accéder à des prestations de compensation du handicap, il y a tout un dossier à faire. Vous avez un dossier de plus d'une vingtaine de pages à remplir, qui prend environ 6 mois à être analysé. Donc, si vous avez besoin d'une aide urgente, il va falloir vous débrouiller un petit peu autrement, ou secouer un petit peu tout le monde dans tous les sens, et encore, on va croiser tous les doigts possibles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur le Maine-et-Loire, actuellement, nous avons une problématique avec le fonds de compensation, qui permet plein de financements autour du handicap, qui malheureusement n'a plus suffisamment d'argent pour aider toutes les personnes en situation de handicap. Donc on se retrouve avec des fauteuils qui doivent être renouvelés et où on nous dit on ne sait pas comment on va pouvoir vous aider à financer. Ce qui est quand même très problématique, parce que nous, le fauteuil au quotidien, et je prends l'exemple du fauteuil, mais ça peut être d'autres types de matériel, c'est notre moyen de locomotion au quotidien, et on en dépend. Et de se dire, peut-être parce que la Sécu ne prend pas suffisamment en charge, ta mutuelle ne prend pas suffisamment en charge, derrière, tu n'as peut-être pas d'autre solution que de demander par des PCH, par diverses choses.
PCH, donc prestation de compensation. Prestation de compensation du handicap.
Et que finalement, tu te retrouves par... mais là, madame, malheureusement, on n'a plus suffisamment d'argent. C'est problématique. Et c'est l'un des grands discours en ce moment avec l'État, de comment on peut faire pour augmenter tout ce qui est alloué aux personnes en situation de handicap, pour les aider au maximum et les rendre le moins dépendantes de la société possible. C'est-à-dire être le moins bloqué possible par un frein financier qui entraînerait tu n'as pas la possibilité d'avoir tel ou tel matériel.
Thomas, si jamais vous aviez un mot à adresser aux collectivités publiques et aux personnes, au conseil départemental, au conseil régional ou bien au conseil municipal, pour reprendre évidemment simplement des enjeux locaux, qu'est-ce que vous leur diriez sur cette mise en relation entre l'accompagnement des personnes en situation de handicap et les Jeux paralympiques qui viennent de se terminer ?
L'accompagnement, tout ça, c'est un peu... Parce que moi, vous voyez, j'ai des aides à domicile, c'est un peu du... Pour moi, il y a un peu de laisser-aller en ce moment. Tout ce qui est aide à la personne, tous ces trucs-là, il y a un peu de laisser-aller, donc...
Il n'y a pas un accompagnement suffisant ?
Ouais, il n'est pas suffisant. Pour moi, il n'est pas suffisant et c'est un peu du laisser-aller, quoi.
Et je pense que le message qu'on pourrait faire passer, c'est venez discuter avec nous, on échange, on essaye ensemble de trouver des solutions. On n'est pas fermés, nous, à la discussion et à pouvoir échanger les uns avec les autres. Au contraire, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir créer des choses qui sont bien et le mieux possible pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on pourrait dire, c'est n'hésitez pas à venir vers nous et à, pourquoi pas, vous mettre dans la peau d'une personne en situation de handicap, passer la journée avec elle. On a bientôt le DuoD qui arrive, on a bientôt la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap aussi qui arrive. Ça peut être des occasions d'en profiter, mais aussi tous les jours. Venez nous en association nous voir. Demain, on célèbre la fresque qu'on a créée sur notre bâtiment. Voilà, c'est l'occasion de venir faire la fête ensemble et de voir que on peut ensemble créer des choses.
De 16h à 20h.
Pardon ?
De 16h à 20h pour la fresque.
Et rendez-vous donc ce jeudi de 16h.
Mercredi.
Ce mercredi de 16h à 20h dans les locaux d'APF France Handicap, la délégation du Maine-et-Loire.
Voilà, on est 22 boulevard des Deux Croix, Angers, en face du tramway.
Juste en face du tramway, c'est très très accessible pour le coup, ça c'est bien vrai. Merci beaucoup Marine Delafoy et Thomas Bietri, membres d'APF France Handicap de la délégation du Maine-et-Loire d'APF France Handicap, d'être venus à nos micros. Évidemment, si on veut retrouver toutes vos actualités, il y a votre site internet qui est très bien fait.
Site internet, il y a nos réseaux sociaux sur la délégation.
Il y a aussi vos réseaux sociaux.
On transmet des infos et puis ne pas hésiter à venir nous voir en délégation.
Parce qu'on
est ouvert à
portes.
Tous. On est ouvert à tous.
Il y a une super bibliothèque collaborative, participative. Et n'hésitez pas. Un grand, grand merci encore à tous les deux d'être venus à bord du Pédalo. Le Pédalo qui termine sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Nous, on se retrouve demain avec le Shabada, le Last Mac d'Angers, fête ses 30 ans. Alors, on va évidemment parler de tout ça sur le Centre AFM, notamment puisqu'on a notre programmateur musical et disco qui vous fera vibrer de 6h à 10h du matin pour le... Je ne sais pas si jamais c'est l'after ou bien le before. Enfin, sur ce créneau un peu du 6-10 là, mais on va détailler tout ça avec l'équipe du Shabada demain à bord du Pédalo. D'ici là, très très bonne soirée à toutes et à tous sur le Centre FM. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Merci.
Merci.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.